Bonjour, je voudrais remercier donc Monsieur Mola de nous accueillir pour ce premier séminaire entre le droit et les sciences dans une série qui pourrait s'appeler Comprendre, essayer de comprendre sur les recherches en parenté, les recherches avec l'appui des analyses génétiques, donc des tests ADN, et on va essayer de faire l'alliance entre donc le droit et les sciences, donc entre Monsieur Jean Auzert, professeur à l'Université de Bordeaux, spécialiste reconnu international en droit de la filiation, entre Madame Esponda, spécialiste au laboratoire d'hématologie médico-légale des recherches de filiation, et moi-même qui vais essayer de faire le lien entre les deux. Donc c'est un sujet très important qui de temps en temps défraye les chroniques, défraye les journaux à sensation, et donc on va essayer de revenir sur des choses simples, d'expliquer comment on peut, grâce à des tests qu'on appelle génétiques ou des tests ADN, on peut identifier ou pas un père. Mais auparavant, je vais laisser la parole au professeur Jean Auzert, qui va donc nous dresser le cadre juridique dans lequel une personne peut rechercher son père ou ne pas le rechercher. Monsieur Auzert, vous avez la parole.
Merci, chers collègues et président. En un quart d'heure, la filiation, droit français, on va faire ce qu'on peut. Hein. Il faut d'ailleurs ajouter à mon titre une remarque pratique, c'est que je ne regarde pas la filiation uniquement théoriquement, puisque depuis 25 ans et même plus, je crois, je suis consultant du Cridon Bordeaux-Toulouse, qui est devenu le Cridon Sud-Ouest, c'est-à-dire l'organisme des notaires où arrivent toutes les questions difficiles. Et on me transmet généralement, très généreusement, les questions difficiles de filiation et droit de la famille. Alors ces précisions étant apportées, trois points, je vous propose de voir vraiment la généralité. Alors, premier point d'abord, il ne faut pas trop s'orienter vers le contentieux. L'immense majorité des enfants de notre pays et de tous les temps d'ailleurs vivent sans qu'il y ait de contentieux sur leur filiation. D'abord parce que leur filiation a été établie par un titre, c'est-à-dire leur déclaration à l'état civil et que personne n'a jamais contesté ce titre. D'ailleurs, au bout d'un certain temps, on ne peut plus le contester. Donc au fond, l'immense majorité des enfants vivent sous un parapluie juridique définitif qui ne permet aucune action de contestation ou de transformation. À côté de ça, et on le mettra de côté parce que ça n'est pas de la biologie, le droit français, contrairement à bien d'autres droits, il n'y a pratiquement pas d'autres exemples en Europe, admet la preuve de la filiation par d'autres moyens non biologiques et notamment par ce qu'on appelle la possession d'État, qui est une façon sociologique de constituer une filiation. C'est sans doute un legs historique important. On ne peut l'expliquer qu'en France. Quand on est en Allemagne et qu'on explique la possession d'État, personne ne comprend rien. Oui, mais la filiation, ou c'est de la biologie, ou c'est rien du tout. Eh ben non, nous avons une conception beaucoup plus relative. D'ailleurs, le droit français n'est pas, jusqu'à une époque récente, tout à fait toujours biologique à tout prix. Alors, quand on veut discuter le contentieux, ces choses-là étant précisées, il n'y a pas que du contentieux. Le contentieux est très minoritaire. Je vous donnerai quelques chiffres. Quand on veut se pencher sur le contentieux, il y a en fait deux actions possibles. Il n'y en a pas trois. L'action en réclamation d'État pour l'enfant qui n'a pas de filiation, et le prototype vous viendra à l'esprit de l'action en recherche de paternité dite naturelle, qui n'est plus d'ailleurs en paternité naturelle, l'action en recherche de paternité hors mariage, et puis qui est une action donc en réclamation d'État. Et puis le contraire, c'est-à-dire l'action en contestation d'État. Voilà quelqu'un qui a un État établi et veut s'en débarrasser, ou les tiers veulent s'en débarrasser, et notamment les tiers héritiers à côté de lui, parce que s'ils se débarrassaient de lui, le gâteau serait quand même plus confortable. Quand je dis ça, vous allez le voir, c'est quand même, hélas, une grande majorité des actions d'État que la presse nous présente toujours sous des angles un peu pleureurs. Oui, il voulait voir son papa, sa maman. Dans la réalité des choses, on est dans des connivences un peu différentes et moins sympathiques. Alors, dans les deux cas, et ça fait le lien avec ce qui va être dit après, réclamer son état ou contester son état, il est évident que la preuve scientifique de la filiation ou de la non-filiation est essentielle. C'est pas si ancien que ça, jusqu'à ce qu'on ait ces moyens techniques, disons dans les années 55-60 par exemple, on se débrouillait autrement, avec des présomptions, des témoignages. Là, la science nous a apporté une certaine sécurité. Théoriquement, tout ça ne concerne que la paternité. D'ailleurs, je suis sûr que vous ne vous êtes absolument pas posé la question de savoir si ces recherches pouvaient concerner autre chose que la paternité. Ben, jusqu'ici, effectivement, non. Pour l'excellente raison que la maternité était certaine, puisque c'est la dame qui accouche. Mais vous le savez, notre merveilleuse évolution fait qu'il y a des gestations pour autrui, même si elles sont théoriquement interdites en France, mais on sait très bien comment on fait. Il y a des procréations médicalement assistées, et la dame qui accouche n'est plus forcément la mère biologique. Alors pour l'instant, il n'y a pas de véritable contestation, il y a très peu d'action sur la maternité, c'est vraiment tout à fait marginal. Mais croyez-moi, je suis persuadé que ça ne va pas durer. Alors si vous voulez avoir une idée sur ce premier point, je regarde ma montre, je suis désolé, mais vraiment ça va aller très vite. En 2010... les tribunaux de grande instance, qui sont compétents pour ça, ont été saisis de 390 demandes en recherche de paternité, ce qui n'est pas beaucoup, hein, finalement, sur le nombre d'enfants qui naissent. Donc ou bien c'est parce qu'on laisse tomber, ou bien alors c'est parce que tous les enfants sont vraiment les enfants du monsieur qui vit avec la dame. À voir. Et puis les cours d'appel, 5074 saisines. Alors si vous comparez les deux, vous apercevez que c'est très contentieux quand même, parce que pour 390 demandes devant les tribunaux, il y a 5074 appels, ce qui est considérable. Pour les contestations de paternité, donc c'est plus les recherches, mais les contestations, 175 devant les TGI et 1936 devant les cours d'appel, là encore, c'est tout à fait contentieux. Alors, deuxième point, la production de la preuve génétique est strictement encadrée par la loi, mais je dois vous dire que ça ne va peut-être pas durer parce que les pressions diverses sont de tous les côtés. Pourquoi c'est encadré par la loi ? Ben parce que dès l'origine, on a eu très peur des curiosités multipliées par les progrès, entre guillemets, scientifiques. On se disait qu'après tout, avant, on ne savait pas, mais quand on ne sait pas, ça ne trouble personne, et que maintenant, si on sait, eh ben, ça va évidemment apporter beaucoup de difficultés. Alors on a, et le texte est encore là, encadré cette preuve biologique dans l'idée qu'il faut qu'il y ait une action judiciaire, qu'on ne peut pas comme ça décider brusquement d'aller voir, etc. Action judiciaire dans le cadre d'un procès véritable. Théoriquement, il ne peut pas y avoir d'expertise de curiosité. Mais là, on nous dira sans doute qu'il suffit d'aller les faire ailleurs qu'en France pour que cette interdiction soit facilement tournée. Il faut ajouter dans ce deuxième point... Alors là, c'est très discuté, parce que de plus en plus, on pense qu'après tout, pourquoi pas. Si les gens ont envie de savoir, ben, ils n'ont qu'à savoir. Donc là, vous le voyez, on a un vrai débat entre... faut-il cacher, faut-il tout révéler, la vérité à tout prix, même si elle détruit beaucoup, même notre époque ne supporte plus l'idée qu'on puisse se brider la vérité pour la paix des familles. Alors il est probable que le texte, qui est déjà à peu près ruiné, va sauter un jour. Il faut d'ailleurs rappeler que la preuve génétique, contrairement à ce qu'on dit, il suffit de regarder la jurisprudence, la preuve génétique n'est pas la seule voie. Il y a toutes sortes d'hypothèses où on n'arrive pas, pour des raisons qu'on nous expliquera, à apporter la preuve génétique, et la Cour de cassation répète tout le temps au juge, eh bien, débrouillez-vous. Allez chercher, comme avant, au temps où il n'y avait pas d'éprouvettes, où il n'y avait pas de... Allez nous chercher des témoins, des témoignages, des parents, des amis, de ce que vous voulez. Après tout, on peut peut-être... Alors, c'est pas fréquent, mais quand même, de temps en temps. Alors, troisième et dernier point, vous le voyez, j'essaie de... Tout cela est évidemment compliqué, enfin, plus simple qu'il n'y paraît quand même. Il faudra tenir compte, la preuve génétique doit tenir compte quand même, puisqu'elle s'inscrit dans une action. Elle doit tenir compte de la prescription de cette action. Et je dirais qu'actuellement, si on cherche vraiment ce qui est en discussion et très vive avec des arrêts récents des dernières semaines, des derniers mois, la grande question est de savoir s'il faut appliquer une prescription aux actions d'État. Et j'entends bien, vous avez compris, une prescription extinctive. C'est-à-dire de dire que vérité, biologique ou pas biologique, peu importe, au bout d'un certain temps, il faut arrêter les pendules et dire on ne peut plus agir. Et ça rejoint ma première remarque, c'est qu'on s'aperçoit quand même, par exemple, les trois derniers arrêts de la Cour de cassation sont des arrêts successoraux, hein, avec un monsieur qui va mourir et qui meurt, il a 80 ans, et il a un fils de 50 ans, et on va remettre tout en cause, bah, parce que l'héritage, vous avez compris, il y a le fils de 50 ans, quelquefois dit, mais j'ai trouvé un papa qui est bien plus intéressant que celui-là qui est en train de mourir, et je voudrais bien refaire tout ça, supprimer mon faux papa qui m'a élevé tout le temps, ça fait rien, et puis après en trouver, c'est mon vrai, et il n'est pas encore mort, mais il a un patrimoine évidemment beaucoup plus intéressant que le premier. Alors, la prescription actuelle, je simplifie beaucoup, est de 10 ans. C'est-à-dire que 10 ans à compter du moment où vous pouviez agir, eh ben, le délai est suspendu pendant la minorité, ça vous fait 28 ans, et puis après, voilà. Alors, pour prendre l'action en recherche de paternité, et terminer là-dessus d'ailleurs, si vous prenez un jeune homme ou une jeune fille, où sa maman agit pendant sa minorité, donc pendant les 18 ans, et il peut agir ensuite pendant 10 ans à compter de sa majorité, c'est-à-dire jusqu'à 28 ans. J'ai participé à l'ordonnance de 2005 là-dessus, j'y tenais beaucoup. On a évidemment beaucoup, profondément modifié les choses, parce que jusque-là, tenez-vous bien, en 2005, on ne pouvait agir que dans les 2 ans de sa majorité, c'est-à-dire de 18 à 20 ans, point à la ligne. Après ça, qu'est-ce qu'avait décidé le législateur ? Ben, c'est trop tard. Trop tard parce que vous allez bouleverser les familles. Alors, nous avons en fait, et pour terminer sur ce point, chaque fois qu'on veut toucher à ça, je me souviens des matinées à la chancellerie pour l'ordonnance de 2005, vous avez immédiatement deux écoles. La première école, oui, il faut que la vérité soit révélée à tout moment, tout le temps. Puis la deuxième école, qui est souvent d'ailleurs, il faut le dire, un peu plus masculine. Non, faut pas, parce que trop tard, c'est trop tard. Et puis ça va bouleverser la famille et les héritages. Et quand vous faites voter ça par les députés, alors jusque-là, il faut le répéter, les chambres étaient majoritairement constituées d'hommes, vous le savez, c'est encore le cas d'ailleurs. Et la réaction des sénateurs et des députés, par exemple, n'est pas tout à fait la même, quand vous leur proposez prescription ou pas prescription. Pour l'instant, on est à 10 ans, mais la Cour européenne des droits de l'homme, qui elle est beaucoup plus biologique, a tendance à dire, je dis tendance, à dire en 10 ans, c'est bien court, vous bridez la vérité, peut-être que vraiment, faudrait ouvrir dans certains cas, et on a eu au moins une affaire célèbre ici, pour ne dire que le château Badette à Saint-Émilion, on a eu une affaire ici où la Cour européenne des droits de l'homme a trouvé que, vraiment, empêcher quelqu'un d'établir la maternité, la vraie paternité, pardon, au bout de 10 ans, c'est très court. Il est vrai que l'affaire était très spécifique. Il faut faire très attention. Alors, dernier mot, on a le choix entre construire... Alors, des légiférendaires, enfin, en modifiant la loi. On a le choix entre construire un système sensiblement biologique, quel système allemand ? Ça n'était pas le système historique français, ça ne l'est toujours pas. Nous sommes plus relativistes et plus... Jusqu'à il y a une quinzaine d'années, les Allemands avaient un office officiel qui était chargé de rechercher les pères naturels quand la mère n'agissait pas. C'est absolument extraordinaire. Jamais les Français n'ont pu imaginer un truc pareil. Et les Allemands ont supprimé cet office, non pas pour des raisons de principe comme je vous les expose, tout simplement parce qu'il coûtait très cher et qu'il servait à rien, ou à peu près à rien, parce que les mœurs avaient changé. Alors la CEDH est également, enfin la Cour européenne des droits de l'homme est également assez biologique, mais vous le savez, la jurisprudence de cette cour est fluctuante et il y a un coup à droite, un coup à gauche. On n'arrive pas trop à savoir si c'est la biologie qui gagnera ou la relativité de la filiation. Merci.
Bien, merci, monsieur le professeur. Donc, je voudrais juste vous présenter des généralités sur les expertises ADN et donc des généralités aussi sur l'ADN. Donc, notre unité à tous c'est ce que l'on appelle une cellule. Et cette cellule, à l'intérieur, se passe un noyau. Et à l'intérieur de ce noyau, il existe cette molécule extraordinaire qui s'appelle l'ADN. Il y a deux types d'ADN. L'ADN qu'on appelle autosomal, qui provient du père et de la mère. Alors, monsieur le professeur, je vais parler, moi, des vrais, oui. Ceux qui ont déposé leurs petites graines.
Hein. Oui, oui.
Donc, des biologiques. Et donc, de l'ADN qui provient du père et de la mère, et deux chromosomes sexuels, c'est le chromosome Y, qui provient uniquement du père, et le chromosome X, qui provient du père ou, et non pas et, ou de la mère. À l'extérieur, dans le cytoplasme, un petit organite qui s'appelle la mitochondrie, et à l'intérieur, un autre ADN complètement différent, tout petit, qui s'appelle l'ADN mitochondrial, qui est uniquement d'origine maternelle. Donc voilà, vous avez les acteurs complets de nos analyses. Lorsque on regarde une personne, eh bien, on peut analyser toutes ces données. On peut les analyser sur du sang avec les globules blancs. On peut les analyser sur du sperme. On peut les analyser sur les cellules épithéliales. On peut les analyser sur du muscle. Mais dans les laboratoires, quand on est au stade de muscle, ce n'est pas un prélèvement très simple. Et de même que le prélèvement osseux. Et on peut travailler aussi sur les bulbes. Donc vous voyez qu'en termes de tissu, nous avons une possibilité d'analyse extraordinaire. Tout ce qui est important, c'est que toutes les cellules d'une personne possèdent le même ADN, sauf naturellement les cellules reproductrices qui en ont que la moitié, et aussi une cellule très complexe qui s'appelle le mégakaryocyte. Donc nous avons 22 paires de chromosomes d'autosomes et nous avons une paire de chromosomes sexuels. Donc nous allons très simplement pouvoir avoir ce schéma, c'est-à-dire que le père donne la moitié de son ADN à son enfant, la mère l'autre moitié, et vous avez compris que quand les trois parties sont là, eh bien c'est très simple de savoir qui, s'il est père et père ou pas. Nous allons, dans certains dossiers un peu plus compliqués, utiliser les chromosomes sexuels, c'est-à-dire un homme possède un chromosome X et un chromosome Y, et une femme possède deux chromosomes différents X. Donc nous avons aussi deux acteurs, le chromosome X et le chromosome Y, dans les paternités compliquées. Le chromosome X, eh bien, le père possède un chromosome X, donc il va le transmettre à sa fille, et la mère, eh bien, va transmettre soit l'un, soit l'autre. Et donc on pourra, dans les paternités un peu plus compliquées, se dire, on va essayer de rechercher ce chromosome X pour notamment savoir si on a des sœurs ou des demi-sœurs, puisqu'elles auront un même chromosome X identique. Le chromosome Y, eh bien, il est propre à la lignée paternelle, donc le père transmet son Y à son fils, et son Y provient de son grand-père, donc à moins qu'il y ait eu une rupture de la chaîne. Mais ce qui veut dire que nous pouvons, eh bien, avec des grands-parents paternels, eh bien, étudier ce chromosome Y dans cette chaîne. Lorsqu'il y a fécondation, nous avons la fusion des gamètes en une seule cellule qui s'appelle un zygote. Normalement, nous avons un ovule qui va venir féconder un spermatozoïde, qui va être fécondé par un spermatozoïde, et nous allons avoir la reconstruction de l'ensemble du patrimoine génétique, autosomale et sexuelle, à partir des deux parents. Lorsque nous avons un enfant qui s'appelle des jumeaux, il en existe deux types. L'enfant, un jumeau, c'est un enfant qui partage le même utérus pendant une même gestation. Donc nous avons, Madame Esponda vous présentera un cas tout à l'heure tout à fait intéressant, deux catégories. Soit nous avons un ovule qui est fécondé par un spermatozoïde, rien d'extraordinaire, sauf que tout d'un coup, il va se séparer en deux, donc on aura deux embryons. Dans ces cas-là, un ovule, un spermatozoïde, donc reconstitution d'un patrimoine génétique qui va se diviser en deux. Donc nous allons avoir les ADN qui vont être identiques dans les deux cas. Deuxième possibilité, nous allons avoir un ovule fécondée par un spermatozoïde, mais voulons l'avoir deux fois. Donc nous allons avoir deux ovules, deux spermatozoïdes évidemment qui sont différents, chacun ayant un patrimoine génétique, et nous allons avoir des jumeaux, mais qui ont un ADN différent. On les appelle vulgairement faux jumeaux. Ce n'est pas très gentil pour eux. Donc, si l'on fait maintenant un zoom un tout petit peu sur les analyses. Donc, nous disposons d'une analyse au niveau de l'ADN nucléaire, d'origine maternelle et paternelle, l'ADN sexuel Y et l'ADN sexuel X. Il y a un point très important, car vous avez souligné, monsieur le professeur, qu'il existe des possibilités de faire des analyses génétiques en dehors d'en France, vu l'importance du résultat, car on va dire à un enfant, voici ton papa ou voici, ce n'est pas ton papa, je pense que ces analyses doivent être fiables et certaines, c'est-à-dire exactes. C'est-à-dire, on ne peut pas tolérer des risques d'erreur. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'encadrer par des normes de qualité tous ces résultats. Donc, on va rechercher l'analyse d'un polymorphisme au niveau de l'ADN autosomal, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous différencie? Quels sont les, au niveau de l'ADN, ces différences entre nous? Ça s'appelle le polymorphisme. Le polymorphisme au niveau de l'ADN est... on va identifier des segments qu'on appelle des locus, des segments qui sont assez petits d'ailleurs, et à l'intérieur de ces segments, on identifie des petites unités qui sont des petites unités de 2 à 6 paires de bases. En principe, je dois vous dire, on travaille sur 4 paires de bases. Et ces petites unités, elles sont transmises par les lois de Mendel, donc elles sont témoins de l'hérédité de la personne. Elles n'ont pas de fonction précise aujourd'hui. Demain, il faut être prudent avec la génétique, c'est un autre jour. Donc on verra peut-être demain. Et on va étudier le nombre de ces répétitions. Donc c'est une analyse simple. Et vous voyez ici, par exemple, sur un segment d'ADN qui s'appelle le système THO1, eh bien, vous avez la répétition de 7 unités qui comportent 4 paires de bases, adénine, adénine, thymine, guanine. Ces unités répétitives donc, se répètent 7 fois dans ce segment d'ADN. Et donc, ça porte tout simplement l'allèle 7. Vous voyez, les biologistes ont fait preuve de sagesse et de simplicité dans la nomenclature, ce qui est assez rare. Dans le deuxième brin, toujours la même unité répétitive, adénine, adénine, thymine, guanine, est répétée 9 fois. Eh bien, l'allèle s'appellera allèle numéro 9. Cet allèle numéro 7 et cet allèle numéro 9 pourront se transmettre aux enfants, et ils proviennent de leurs parents. Donc, le schéma d'une analyse est relativement simple. Nous prélevons des cellules buccales chez une personne. Nous allons extraire l'ADN, l'amplifier, et l'amplifier dans les locus que je vous ai, dans une vingtaine de locus, 21 locus que nous analysons aujourd'hui. Et nous allons avoir un profil ADN qui porte des numéros que vous avez sur la diapositive d'en bas. Et donc, ces numéros sont propres à la personne. Et l'ensemble de ces segments d'ADN porte un terme générique, un terme médiatique, qui s'appelle l'empreinte génétique, tout simplement. Donc, quand nous sommes en recherche d'une filiation, par exemple une paternité, nous avons deux cas très simples. Le père est présent ou il n'est pas présent. Si le père est présent, on a la mère qui donne 50% de son ADN avec les réserves que vous avez faites. Mais je croyais qu'il y avait une phrase latine qui disait
Mater semper certa. Oui.
Exactement.
Oui, mais bon.
Bon, d'accord.
C'était chez les Latins.
C'était chez les Latins. D'accord. Donc, nous avons 50% de l'ADN qui provient de la mère et 50% du père, réel. Quand le père est absent, on commence à être plus compliqué, et je vous parlerai d'un dossier, pourquoi ce père est absent. Et ça, c'est une des raisons que je n'ai jamais très bien compris où, dans lequel on ne peut plus faire de prélèvement chez un père décédé, eh bien, on va faire l'analyse sur les grands-parents. On va analyser, dans ces cas-là, l'ADN autosomal du grand-père, paternel, naturellement, et non maternel, grand-père paternel. On va essayer de reconstituer le profil ADN du père qui n'est pas là, du père décédé généralement, et on va, eh bien, retrouver une analyse ADN de l'enfant. On peut faire l'analyse ADN de la fratrie. Généralement, c'est des demi-fratries, et nous avons des logiciels mathématiques qui nous permettent de calculer des probabilités d'inclusion. Pardon, nous allons compléter ces analyses ADN par l'analyse du chromosome Y, si c'est un garçon, ou d'autres analyses comme le chromosome X, cela dépend des cas. Ce qui veut dire que même lorsque le père est décédé, il est possible, ce n'est pas toujours, mais il est possible de faire ces recherches de filiation. Alors pourquoi on ne peut plus pratiquer, ou les magistrats ne le souhaitent pas, pratiquer des recherches de filiation sur des personnes qui ont été inhumées? Eh bien, il y avait une jeune femme, il y a quelques années, je pense que tout le monde s'en souvient, eh bien, une jeune femme qui revendiquait la paternité d'un artiste, et cette paternité, comme vous l'observez, eh bien, toute la France a pensé que c'était tout à fait vrai, car ils se ressemblaient tellement que vraiment, je ne comprends pas qu'on ait même fait cette analyse ADN. Et donc, le 6 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Paris reconnaissait la paternité de cette personne, de ce monsieur, avec cette jeune fille qui s'appelait Aurore Drossard. Donc, il reconnaissait sur la base de témoignages dont vous avez rappelé, de photos, etc. Le 6 novembre 1997, la cour d'appel de Paris décidait d'exhumer M. Montand, et on faisait une comparaison qui est très simple, c'est-à-dire on prenait un peu d'ADN sur le fémur de M. Montand et on le comparait au prélèvement buccal, qui était en fait, dans ce cas-là, un prélèvement sanguin, sur Mademoiselle Drossard. Ça correspondait ou ça ne correspondait pas. Dans ce dossier, ça ne correspondait pas, et donc la réponse était simple. Mademoiselle Drossard n'est pas la fille de M. Montand. Sauf que ça avait déclenché, vous voyez, une polémique qui a abouti à ce que, aujourd'hui, la Cour européenne, en 2006, avait indiqué que le droit de connaître l'identité du géniteur forme un intérêt vital pour la personne, et ce droit prévaut sur celui de reposer en paix. Mais, sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait indiqué que on ne pouvait exhumer que si la personne était d'accord de son vivant. Je résume très simplement. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui, de leur vivant, font un papier en disant « je suis d'accord qu'on m'exhume ». Ce qui fait que, en fait, c'est plus du tout pratiqué, alors qu'en France, c'était pratiqué dans ces années-là, régulièrement, car il y avait un certain nombre de personnes qui avaient besoin de connaître l'identité de leur père. Il existe aussi des cas où, dans lesquels il y a un don de sperme, c'est-à-dire des pères anonymes, où l'identification biologique n'est pas possible, puisque le père n'est pas connu, n'est pas anonyme. On peut, dans les techniques modernes que vous avez rappelées, M. Auzer, lorsqu'il y a une procréation médicalement assistée, qui sont des méthodes, alors que je ne rentre pas, mais qui sont extrêmement claires et encadrées juridiquement, il est possible, notamment dans les fécondations in vitro, si l'on a des spermatozoïdes ou un ovule de femme qui sont connus, eh bien, on peut faire ces recherches. On peut avoir aussi un don d'ovule et des spermatozoïdes issus d'un homme connu, et on peut avoir des ovules d'une femme connue et un don de sperme anonyme. Dans ces cas-là, il n'est pas possible de faire ces recherches de filiation. Alors, je ne parlerai pas de la gestation pour autrui, parce que c'est une technique qui n'est pas autorisée en France, donc je ne me permettrai pas d'en parler. Donc, en conclusion, nous avons à notre disposition, et j'espère vous l'avoir montré, un certain nombre d'analyses génétiques qui permettent, au laboratoire de répondre, dans la plupart des cas, je n'ai pas dit dans tous, mais dans la plupart des cas, à la question, est-ce que cet enfant est le père d'eux ou est-ce que cet enfant a pour mère Madame Untel. Je vous remercie. Et donc, je passe la parole à Madame Esponda. Madame Esponda, responsable des paternités, travaille au laboratoire à Bordeaux et a une grande expérience de toutes ces cas. Donc, on va rentrer dans des exemples.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on va rentrer un peu plus dans des cas un peu plus concrets qu'on a eu au sein du laboratoire. Donc, je vais vous présenter tout d'abord le déroulement d'une expertise civile. Alors, il y a une action donc, en recherche en paternité ou en contestation qui est réalisée au sein du tribunal avec un juge qui va mandater un expert et un laboratoire, tout simplement. Il y a une étude de faisabilité, c'est-à-dire que l'expert va donner son avis sur l'expertise, à savoir s'il manque des éléments pour réaliser la paternité et pour conclure à une paternité, à ce moment-là, l'expertise n'est pas réalisée. Si par contre les éléments sont favorables à faire cette filiation, à ce moment-là, on réalise l'enregistrement du dossier et donc nous allons pouvoir commencer les analyses. La réalisation se fait tout d'abord, Monsieur Doutremépuis, je vous l'ai dit tout à l'heure, par les prélèvements buccaux. Donc soit ils se font directement au sein du laboratoire, soit ils se font à l'extérieur du laboratoire par un sapiteur. Soit le sapiteur est choisi directement par le laboratoire, soit il a été choisi par le juge. Dans les deux cas, administrativement, c'est le laboratoire qui va faire toutes les démarches pour demander aux parties de venir au laboratoire. Et tout ça, jusqu'à 3 relances pour effectivement inciter les personnes à venir au sein du laboratoire se faire prélever. Il y a une note que l'on fait un peu plus précisément au sein du laboratoire, c'est-à-dire qu'on envoie par SMS les convocations pour rappeler aux personnes de venir à ce rendez-vous. Ce qui est très important, c'est le consentement des prélèvements. Si la personne ne souhaite pas donner son consentement pour effectuer le prélèvement buccal, à ce moment-là, il n'y a pas de réalisation du prélèvement buccal et on édite un rapport de carence. Dans le cas contraire, le prélèvement buccal se fait sur chacune des parties, donc généralement père, mère et enfant, et l'analyse peut débuter. Le prélèvement buccal, il consiste simplement à un prélèvement, donc c'est avec un écouvillon, donc de récupérer des cellules internes au niveau de la bouche, de la joue, et donc c'est un prélèvement indolore, on ne pratique plus de prélèvement sanguin, qui était assez traumatisant, surtout sur les jeunes enfants. L'analyse du prélèvement buccal, donc comme vous l'a dit M. Doutremépuis, va être analysée et va nous donner donc une empreinte génétique que vous avez donc en bas. Les résultats de ces analyses vont être comparés entre père, mère et enfant. Il va être réalisé un calcul statistique pour donner une probabilité d'inclusion. La paternité va être vérifiée quand la probabilité d'inclusion est supérieure à 99,999%. Il existe donc certains cas complexes où ce calcul de probabilité va être secondé avec d'autres analyses complémentaires telles que l'ADN du chromosome X et l'ADN du chromosome Y. Une fois toutes ces analyses réalisées, on rédige un rapport d'expertise. Ce rapport d'expertise doit être envoyé donc, par transmission en accusé de réception aux parties et aux avocats. Et ensuite, après un délai de dire à expert, nous envoyons le rapport définitif au juge et aux parties. Voilà comment se déroule l'expertise, dans sa généralité, au laboratoire, l'expertise civile. Alors, bien sûr, une des questions, c'est l'identification de la filiation est-elle obligatoire ? Doit-on passer automatiquement par une analyse génétique ? Bien sûr que non. Mais il y a juste quelques statistiques et quelques données que je souhaiterais vous montrer ici, que nous faisons au sein du laboratoire. C'est-à-dire que, vous voyez, depuis 2014 jusqu'à 2016, il y a plus d'un cas sur trois où la paternité a été exclue. Donc, sans cette analyse, nous n'aurions pas cette donnée-là. Donc, c'est quand même une donnée très importante. Ensuite, je vais vous parler donc plus de la faisabilité et des cas. On va vous donner des cas un peu plus précis, des exemples. Alors, on va partir sur un cas plus simple. Hein. C'est le cas d'un père avec un enfant. Le père va être, son prélèvement buccal va être analysé. Et on va obtenir une empreinte génétique, comme vous l'a montré tout à l'heure, monsieur Doutremépuiche. On va réaliser cette même analyse sur l'enfant et nous aurons également l'empreinte génétique de l'enfant. Deux possibilités. Soit la paternité est confirmée, soit le père est exclu de la paternité. Dans le premier cas, donc on compare ces deux empreintes génétiques et vous voyez dans le premier système, le père est 793, donc les fameux allèles qui sont propres à la personne, le père est 793, il peut donner à son enfant soit l'allèle 7 ou soit l'allèle 93. On continue comme ça cette même vérification. Et si on reprend ce même système, le deuxième système, pardon, le père est 15-18, l'enfant est 15-19, et on s'aperçoit que le père a donné l'allèle 15 à son enfant. Cette vérification se fait sur l'ensemble de la chaîne et sur l'ensemble des systèmes qui ont été étudiés et analysés. Et là, grâce au calcul de probabilité, on s'aperçoit que la paternité est confirmée. Maintenant, dans un cas de l'exclusion, on refait le même contrôle, la même analyse. Dans le premier système, quand on regarde les quatre premiers systèmes, si on reprend le premier système THO1, le père est 7-7 et l'enfant est 7-8, le père va transmettre son allèle 7 à son enfant. Pas d'exclusion. Pour le deuxième système, c'est l'allèle 18 du père qui est transmis à l'enfant. Et par contre, là, on s'aperçoit que le père est 15-17 et l'enfant est 14-16. Donc, nous avons déjà une première exclusion. De même pour le quatrième système, où le père est 30-31 et n'a pas transmis d'allèle à son enfant. Cette vérification va aussi s'effectuer sur l'ensemble de cette empreinte génétique et le père est exclu de la paternité, tout simplement. Maintenant, si on prend des cas un peu plus complexes, c'est un cas qu'on a eu au laboratoire et qui, vous allez le voir, est très, très atypique. Une mère donc a eu deux enfants, des faux jumeaux, donc ce qu'on appelle garçon-fille. Un premier père a été présenté, mais il y a aussi un deuxième père, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas l'identité du père de ses enfants. Donc nous avons réalisé l'analyse génétique pour savoir si c'était le premier père qui était à l'origine donc, de ces deux enfants ou si c'était le deuxième père. Donc si on reprend un peu avec la mère, pour vous expliquer la mère avec l'enfant, la mère est 6-9, l'enfant est 6-6. Donc la mère a transmis son allèle 6 à sa fille. Il reste le deuxième allèle, l'allèle 6, qui donc a été transmis par le père. Donc c'est cet allèle 6 que nous allons rechercher chez le père. Quand on regarde l'empreinte génétique de ce premier père, on s'aperçoit effectivement qu'il a un 6, un 6, 9, 3, mais il a un 6 qu'il aurait pu très bien donner à cet enfant. Quand on regarde le deuxième père, il est 8, 8, il n'a pas pu transmettre ce 6 à cet enfant. La vérification se fait comme tout à l'heure, hein, sur l'ensemble de la chaîne ADN, et là, on peut confirmer la paternité du premier père. Quand on regarde le deuxième père, on refait le même contrôle et là, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs exclusions. Donc, on exclut la paternité du deuxième père. Donc, dans le schéma, on voit très bien que la probabilité de paternité est pour le père numéro 1 et elle est exclue pour le père numéro 2, pour la petite fille. Donc, logiquement, pour le deuxième enfant, le deuxième enfant garçon, nous devrions retrouver les mêmes éléments de comparaison. Quand on refait le même contrôle, on s'aperçoit que le père numéro 1 a énormément d'exclusions. Donc là, on s'interroge, on refait la paternité et refait le contrôle avec le père numéro 2. Et là, le père numéro 2 est le père de l'enfant garçon, avec une calcul de statistique de 99,99%. Donc quand on reprend le schéma général de cette paternité, en définitive, les deux pères sont bien l'un le père de la fille et l'autre, le père de l'enfant garçon. Ce sont des cas extrêmement rares que nous avions la chance si on peut parler, excusez-moi, de ce terme, mais que nous avons eu au laboratoire et qui est possible, mais très rare. Dans un autre cas, donc M. Doutremé-Puch l'a exposé tout à l'heure, c'était le cas d'un père décédé. Donc il est très difficile puisque vous avez 50% de votre ADN maternel donc, qui est connu, puisque nous avons la mère, mais par contre il y a une donnée paternelle qui est manquante. Donc ce que disait tout à l'heure M. Doutremé-Puch, c'est qu'on va essayer de reconstituer les allèles du père grâce aux grands-parents paternels. Donc grâce à cette reconstitution de cet ADN du père décédé, avec un calcul statistique que vous a dit M. Doutremé-Puch avec un logiciel et qui va nous donner des probabilités de parenté, nous allons pouvoir établir s'il y a eu paternité ou si la paternité est exclue. Donc, en conclusion de cette présentation, donc, comme l'a dit M. Doutremé-Puch et professeur Jean Auzère, hein, c'est très encadré. Les empreintes génétiques, nous, au sein du laboratoire, sont très encadrées. La faisabilité, elle est fonction des analyses, c'est-à-dire l'expert va donner vraiment son avis sur la faisabilité de cette expertise. Il y a toute une gestion administrative qui est gérée directement par le laboratoire. Ensuite, l'analyse va être appuyée par des calculs statistiques poussés et un rapport d'expertise, bien sûr, qui doit être le plus clair possible pour donner une finalité de « elle est exclue » ou « la paternité est inclue ». Bien sûr, tout ça, tout ce process de ce laboratoire doit s'inscrire dans les critères donc référentiels qualité de certification et d'accréditation pour donner des résultats fiables, exacts, et toujours dans une innovation du laboratoire pour donner toujours une vérité avec tous les cas qui sont possibles et qui peuvent nous être amenés au laboratoire. Merci de votre attention.
Je vous remercie à tous et c'était un grand bonheur de vous avoir en face de vous.